Tamani, voici nos informations en français.
Exactement 8h. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition matinale à la une de l'actualité. À Farabougou, les négociations en cours entre les populations et les présumés djihadistes n'ont toujours pas abouti à un règlement pacifique du conflit. Grogne sociale, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation entame ce matin une grève de 13 jours. Les experts estiment que cette succession de grèves aura un impact négatif sur la bonne marche de la transition. La date de la nouvelle année scolaire 2020-2021 a été fixée par les autorités scolaires au 4 janvier 2021. Cependant, les cours ont déjà commencé dans certaines écoles privées. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté et mise en onde Nahum Djiré. La situation reste toujours tendue à Farabougou, localité située dans le cercle de Nyono, région de Ségou. Selon des sources locales, les populations du village ne peuvent pas vaquer à leurs occupations à cause de la présence des djihadistes aux alentours du village. La même source indique que les négociations sont en cours. Omar Weigalou.
La médiation du dimanche et lundi pour tenter d'aboutir à un règlement pacifique du problème à l'origine du conflit n'a pas encore abouti. Selon des sources locales, les pourparlers ont repris hier matin entre les djihadistes et les sorcières de la localité. Les mêmes sources indiquent que les djihadistes sont catégoriques dans leur position. Ils demandent aux donzo de la localité de Dogofiri et ses environs de déposer les armes. Certaines notabilités estiment que cette unique condition de groupe djihadiste est pour le moment difficile à satisfaire. Cette médiation locale est dirigée par des leaders religieux, des chefs coutumiers, des chefs de village et les autorités communales. Rappelons que la situation est toujours tendue à Farabougou une semaine après l'intervention des FAMA pour libérer les villages. La population demande la libération de la route Farabougou-Dogofiri. Selon elle, le cours normal de la vie des villageois dépend de l'exploitation de l'air sans situer dans cette zone actuellement contrôlée par des présumés djihadistes. Toutefois, les autorités militaires demandent aux populations et aux notabilités locales de privilégier les dialogues pour régler les conflits intercommunautaires qui sévissent dans la zone.
Et au même moment, les grandes lignes de la feuille de route de la transition étaient ce lundi au cœur des échanges entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ensemble des gouverneurs des régions. Cette rencontre a permis aux représentants de l'État d'échanger avec leur ministre sur l'organisation des élections et le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Kouina Agamadou, gouverneur de la région de Tombouctou, au micro de Mamadou Samaseko.
Il s'agissait pour chaque gouverneur de faire la situation de sa région, parler des aspects sécuritaires qui prévalent dans la région, les contraintes, les difficultés, et de parler un peu des perspectives. Il s'est agi en plus de partager avec les ministres, les cabinets, des grandes lignes de ce qu'on peut appeler la feuille de route, les grandes actions qui doivent être menées au cours de la transition, notamment la mise en œuvre de l'accord, la dissolution des milices, la reprise des activités au niveau des services sociaux de base. Il s'agit également des élections. On est déjà en train de préparer les élections avec la révision des listes électorales, le recensement au niveau de certaines nouvelles régions qui va se poursuivre d'ailleurs. Les bases sont déjà jetées et les travaux continuent.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rencontré hier le premier ministre de la Transition. Les échanges ont porté sur l'accompagnement de l'organisation sous-régionale pour la stabilité au Mali. C'est Lofenda Kuruma, première vice-présidente de l'organisation. La CEDEAO va accompagner le Mali durant la période de la transition. Elle est au micro de Omar Weigalou.
Je lui ai parlé du projet de capital humain, dont le Mali sera impliqué aussi dans ce projet. Le Mali sera central dans le fonds de stabilisation, si possible. Il y aura un fonds dédié au Mali, mais le Mali fera partie de toute façon de fonds dédiés au Sahel. Et pour la capital humain, on va faire vraiment un projet profond avec le Mali au niveau national pour voir comment le Mali peut faire du progrès dans les différentes thématiques dont le projet du capital humain. On a parlé un peu de comment la CEDEAO va vous accompagner dans la transition. On a aussi parlé de la prochaine vision de la CEDEAO qui sera terminée très bientôt.
Le front social est en ébullition. Depuis quelques jours, des protestations touchent plusieurs secteurs d'activité. Après les enseignants, le comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré, le syndicat autonome des administrateurs civils, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation entament ce matin une grève de 13 jours. Les grévistes exigent des avantages financiers. Les détails avec Maliki Diallo.
Après une première grève de 72 heures au mois de septembre, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation entamera dès demain une nouvelle grève de 13 jours. Elle exige la satisfaction de ses 9 points de revendication déposés sur la table du ministère de la fonction publique depuis 2014. Le syndicat demande entre autres des primes allouées au personnel de certaines directions du ministère des Finances à ses militants, l'octroi d'un plan de carrière aux agents financiers du secteur de l'éducation. Aussi, il exige la révision du cadre organique des académies d'enseignement pour l'adapter au contexte actuel, faciliter l'accès des agents financiers aux études professionnelles. Les financiers du secteur de l'éducation ne sont pas les seuls à déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement. Les administrateurs civils observent un mot d'ordre de 15 jours depuis le 19 octobre. Ils ont d'ailleurs déposé un nouveau préavis d'une grève illimitée à partir du 9 novembre prochain. En plus donc de la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, les autorités de transition devront faire face aux demandes sociales de plus en plus nombreuses.
Les autorités scolaires ont fixé la date de la nouvelle année scolaire 2020-2021 au 4 janvier 2021. Cependant, les cours ont déjà commencé dans certaines écoles privées. Cette situation est dénoncée par les autorités scolaires qui mettent en garde les établissements en question. Notre reporter Mohamed Ali Ag Alaïda était sur le terrain.
L'année scolaire 2019-2020 a connu de nombreuses perturbations à cause des grèves des enseignants et de la COVID-19. Mais certains établissements privés indiquent qu'ils ont pu finir avec leur programme. Parmi ceux-ci, certains envisagent de démarrer l'année scolaire 2020-2021 le 2 novembre prochain. Selon ses responsables, cette décision s'explique par plusieurs raisons.
Les écoles privées, majoritairement, elles sont à location. Très généralement également, ils ne bénéficient pas des subventions de l'État. Donc, ils dépendent des cotisations versées par les parents. Depuis les mois de mars, promoteurs, enseignants, tous les acteurs de cette branche d'activité sont en difficulté.
On a épuisé les programmes. Nous avons étudié pendant plus de 9 mois. Et s'il faut attendre encore en janvier pour ouvrir, vraiment nous priver, ça nous arrange.
Cependant, les autorités scolaires du pays s'insurgent contre la décision qu'elles qualifient de contre-productive. Elles préviennent ces écoles contre toute tentative d'entamer le programme de la nouvelle année et les invitent à se conformer au programme fait par le gouvernement. Youssouf Konaté, directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de la Rive Droite.
Certains établissements privés sont en train de commencer la nouvelle année scolaire 2020-2021. Alors, on a adressé une correspondance au directeur de centre d'animation pédagogique afin de voir au niveau de leur circonscription les écoles qui sont dans ce cas-là. On a encore entendu que d'autres s'apprêtent à ouvrir à partir du 2 novembre. Ils savent tous que cela est interdit par les textes, d'autant plus qu'il y a une date officielle qui a été fixée par le département. On va attendre le 2 encore pour encore redescendre sur le terrain, même s'il faut envoyer des missions de vérification de l'ouverture de certaines écoles. Maintenant, pour le moment quand même, aucune disposition n'a été prise par rapport aux sanctions. C'est la phase de sensibilisation.
Les calendriers établis par le gouvernement pourraient s'étendre jusqu'au mois de juillet, une période qui coïncide généralement avec les travaux champêtres. Rappelons que cette année, dans les cercles de Kolokani, les parents ont refusé de libérer les élèves pour suivre leurs cours au profit des travaux champêtres.
Direction Niger, où un Américain résident à Birnin-Koné, dans la région de Tawa, a été enlevé par des bandits armés dans la nuit de lundi à mardi. Selon le père de la victime, les ravisseurs sont venus rechercher de l'argent dans la maison avant de procéder à l'enlèvement de son fils. Pour le moment, les ravisseurs n'ont contacté personne sur la modalité de la libération de l'otage. Pour plus de précisions, écoutons Bruce Walton, le père de la personne enlevée, au micro de Assoumana Moussa, correspondant du studio Kalango depuis Koné.
Moi, c'est Monsieur Bruce Walton et je suis travailleur ici. J'ai une entreprise pour fabriquer le fromage à Koné. Il y avait dans la nuit 6 hommes qui sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils Philippe Walton. Il cherchait de l'argent dans la maison, mais il n'avait pas assez de l'argent. Il n'avait que quelques 20 000 francs. Donc, suite à cela, ils sont partis avec lui. Ils parlaient Hausa entre eux et ils essayaient de parler Hausa avec Philippe, mais il connaissait quelques mots anglais comme « sit down »,« give bring money ». C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont été tous les 6 armés.
Le correspondant du studio Tamani à Douanza, Hamadou Nyalibouli, est porté disparu depuis le 26 septembre dernier. Selon diverses sources, il aurait été enlevé dans la région de Mopti entre Djéné et Sofara.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, faisons un tour dans les régions. La problématique des décès maternels et néonatales et les violences basées sur le genre était au cœur d'une conférence débat lundi dernier au centre de santé communautaire de Sanoubougou 2 à Sikasso. Selon les organisateurs, cette activité vise à sensibiliser les populations et surtout les femmes sur les défis liés à cette problématique. L'activité a été organisée par les membres du comité de veille et d'alerte sur les violences basées sur le genre à Sikasso. Plus de 130 personnes ont été consultées et soignées gratuitement au centre de santé communautaire de Ngolona dans la commune de Kadjolo durant le week-end dernier. L'activité a été organisée par l'association des jeunes et ressortissants du village de Ngolona en partenariat avec le centre de santé communautaire du village. Parmi les bénéficiaires de ces consultations et soins gratuits figurent 45 personnes âgées. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à l'écoute des programmes de Studio Tamani. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara, une présentation de Idrissa Sako. Mais avant tout de suite, la question A. Studio Tamani.